Bien, vient maintenant ce que j'avais appelé ce matin un premier moment de prise de recul, intitulé Point de vue et schéma explicatif en biologie. Je vais donner pour cela la parole à Michel Morange, qui est professeur de biologie à l'Université Paris 6 et à l'École normale supérieure, où il est chercheur au laboratoire de génétique moléculaire de l'École normale supérieure. Il est aussi responsable, et je tiens à le dire, à le souligner, du centre Cavaillès de la rue d'Ulm, qui est un centre un peu analogue au centre d'Alembert, mais avec comme différence principale, je pense qu'il y a quelques recherches, quelques thèses qui s'y font. Et une autre différence, c'est qu'il est peut-être plus centré sur les questions de biologie par la participation d'un nombre au moins proportionnellement plus important de biologistes. Alors, Michel Morange est aussi historien. Certains d'entre vous connaissent peut-être son Histoire de la biologie moléculaire de 1994 et réédité en livre de poche. Et puis récemment, il a publié un livre qui s'appelle Les secrets du vivant contre la pensée unique en biologie, tel est le sous-titre, un peu polémique, aux éditions La Découverte, donc de 2005. Il y défend, et je pense que c'est une des idées principales qu'il reprendra, l'existence et le besoin de plusieurs schémas explicatifs en biologie. Il argumente, il le fait pour lui, qu'il devrait y avoir au moins trois schémas explicatifs, un assez répandu qui est le schéma aujourd'hui, qui est le schéma molécularo-mécaniste, je le cite, un autre schéma qui est tout aussi important, qui est le schéma darwino-historique. Et puis, il y montre aussi l'intérêt d'un schéma qu'il appelle physique non causale, que dans d'autres milieux, je dirais, on appellerait un schéma relationnel fonctionnel, mais avec un sens de fonctionnel qui est plutôt le sens mathématique que le sens biologique, ou que quelqu'un comme Jean-Paul Mathieu appelait des principes d'impuissance. C'est-à-dire que la nature n'est pas capable de faire n'importe quoi, tout n'est pas possible, et c'est un des modes d'expression et d'explication tout à fait fondamentaux. Alors, à vrai dire, j'avais imaginé un dialogue entre Michel Morange, d'une part, et puis Jean-Michel Berthelot, professeur à l'Université Paris 4 en sociologie, et auteur en 1990 d'un livre qui m'avait paru à l'époque et que je considère toujours comme extrêmement important, qui s'appelait L'intelligence du social, avec comme sous-titre Le pluralisme explicatif en sociologie. Alors évidemment, la sociologie, comme science centrale, vit en état permanent de controverse, c'est-à-dire qu'il ne sait pas des domaines dans lesquels on puisse observer un état de consensus sur les grandes explications d'ordre théorique. Mais Jean-Michel Berthelot montrait de ce point de vue-là non seulement une certaine irréductibilité des schémas explicatifs utilisés par les différentes écoles sociologiques, mais en même temps leur complémentarité. Et donc, il défendait l'idée qu'il y avait intérêt à être formé et à pouvoir passer d'un schéma à un autre. À partir d'études de textes de recherche divers, d'une part, par exemple, le développement du machinisme chez Marx, ou les analyses de parenté chez Lévi-Strauss, ou l'étude fameuse des rumeurs d'Orléans par Edgar Morin, il définissait et illustrait par des exemples six grands schèmes types explicatif. Un schème causal, assez classique en sciences dures, un schème qu'il appelait fonctionnel, alors là dans un sens de fonction qui se rapproche de l'idée de fonction en biologie, un schème structural, un schème qu'il appelait herméneutique, un schème actantiel et un schème dialectique. Les deux premiers correspondent à, je dirais, un appui sur ce qu'on pourrait appeler des principes de dépendance, dépendance causale, loi causale, ou dépendance fonctionnelle. Les deux suivants s'appuyaient sur des principes qui cherchent à dégager la signification des phénomènes du point de vue humain, individuel ou social. Et puis les deux derniers s'appuyaient sur ce qu'il proposait d'appeler des principes de composition. Donc on imagine, je pense, la parenté avec au moins certaines préoccupations que Michel Morange va développer. Alors malheureusement, après une difficile maladie dont nous espérions une rémission pour la période du colloque, Jean-Michel Berthelot est décédé le 5 février 2006. Donc je vous propose de dédier un peu cette séance à sa mémoire. Je pense que c'était une contribution extrêmement importante.